Bonjour, nous allons faire une lecture dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 16. C'est facile à se rappeler, hein? 2 Timothée 3, 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Quand il écrit tout homme, c'est aussi toute femme, n'est-ce pas? Seigneur Jésus, je te prie de m'inspirer et d'inspirer mes frères et sœurs qui écoutent. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Amen. Comment est-ce que nous saurions qui est Jésus sans la Bible? Comment reconnaîtrions-nous qui est Dieu sans la Bible? Bien sûr, on peut voir beaucoup de choses dans la nature, mais on va y venir. Certains disent, mais en fait, Jésus n'a rien écrit. Si, il a écrit quelque chose. Il a écrit le nom des pécheurs qui étaient là, en train d'accuser la femme adultère. Il a écrit leur nom dans la poussière. Je vous montrerai ça un jour dans les Écritures. Mais c'est vrai qu'il n'a pas écrit les évangiles, par exemple. C'est vrai, on ne sait rien de ce que Jésus a dit. On sait ce que qu'un certain nombre d'auditeurs et de témoins ont entendu de Jésus-Christ et ont vu de Jésus-Christ. C'est ce qui a été écouté et non ce qui est dit qui est devenu les quatre évangiles. Alors, comment lisez-vous les évangiles? C'est ça la question importante. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si vous trouvez une cruche cassée par terre et que vous demandez à un archéologue de s'en occuper, qu'est-ce qu'il va faire, l'archéologue? Eh bien, il va commencer par faire un inventaire des morceaux de la cruche cassée. Maintenant, si vous prenez la même cruche cassée et que vous la montrez à un herméneute, que va-t-il faire? Il faut savoir qu'un herméneute, c'est une personne qui cherche, qui explique et qui interprète les Saintes Écritures. Quelle va être la démarche d'un herméneute, face à une cruche cassée? Eh bien, il va chercher à savoir, à imaginer à quoi servaient tous ces morceaux. Quel était l'usage de ces morceaux quand ils étaient unis et non cassés? Vous voyez, c'est pareil pour les Écritures. Il y a différentes possibilités d'approcher les Saintes Écritures. Et en fait, c'est la même chose pour tout. Tout dépend de votre point de vue. Et on ne s'approche pas des quatre évangiles n'importe comment. Bien sûr, on peut regarder le côté historique, le côté merveilleux, le côté littéraire, enfin voilà, il y a plein de choses. Mais on ne peut pas vraiment connaître, parce que si on veut connaître Jésus, son message, le pourquoi de sa venue sur la terre, il faut s'approcher de l'évangile d'une certaine manière. Alors je pose une question, qui va oser donner des explications de ces témoignages écrits? En les étudiant uniquement comme un archéologue ou comme un philosophe, par exemple. Pour saisir le message de Jésus, pour comprendre qui il est et pourquoi il est venu, il faut lire les évangiles comme on lit une bonne nouvelle, parce que le mot évangile signifie une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle contient toutes les informations libératrices pour vous et pour l'humanité, pour tous les gens, et cela dans tous les siècles. C'est quand même étonnant. Les témoignages de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont livrés à notre interprétation. Et les quatre évangiles nous invitent à découvrir que nous sommes, parce que si nous sommes croyants, eh bien, les quatre évangiles nous aident à comprendre que nous sommes les temples de Dieu. Dieu est la source, et les Écritures sont le fleuve, les fleuves qui viennent de la source. Si vous ne plongez pas dans le fleuve, si vous ne vous immergez pas dans ce fleuve, vous n'aurez pas une interprétation utile des textes, car vous ne saurez pas vraiment ce qui sort de la source, c'est-à-dire de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit « L'homme, la femme ne vivront que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On ne vit pas que de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous n'avons pas vu Dieu, et la Bible témoigne de son existence. En fait, tout témoigne de son existence dans la nature, quand on regarde comme il faut. Mais la Bible, c'est le témoignage le plus direct et le plus précis si on y plonge de la bonne manière, c'est-à-dire si on se laisse immerger. Et pas seulement immerger, si on est plongé dedans et qu'il entre en nous. Ce que je veux dire, c'est que c'est en vivant qu'on découvre la vie. C'est en faisant ce qu'on comprend des Écritures qu'on découvre la vie. La vie, Jésus a dit, je suis la vie. Eh bien, on découvre la vie, on découvre le pourquoi de toute chose, quand on s'immerge et quand on est rempli de ces paroles qui sont là dans les quatre évangiles. C'est en faisant ce qu'on comprend des Écritures qu'on découvre la vie. Alors, vous n'allez pas comprendre tout de suite les premières années ce que vous allez comprendre dans 30 ans. Dans 30 ans, vous allez évoluer. C'est pourquoi la Bible, c'est un livre qu'on lit tous les jours. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait dit à ma mère, « Mais comment ça se fait? Ça fait déjà 30 ans que tu lis tous les jours le même bouquin, je comprends pas. » Parce que c'est pas un bouquin. C'est un livre de vie. Jésus est le Fils de Dieu en nous. Et en nous, il connaît notre Père et nous dit, et nous savons que le Père de Jésus, c'est notre Père. Et les évangiles sont les messages, les témoignages de l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné une première fois en Jésus et puis maintenant, il s'incarne en nous par son Esprit. Avant, le Saint-Esprit venait sur les prophètes, sur les gens, mais pas, ils n'étaient pas baptisé, immergé, plongé et rempli de Dieu. Il y avait besoin d'un temple. Maintenant, il n'y a plus besoin. Or, ces temples, ces grandes cathédrales, ces grands machins, oui, c'est bien parce que ça nous permet d'être au frais l'été et au chaud l'hiver. Mais à part ça, bon, ben, c'est un lieu de rencontre, oui, voilà, c'est bien. Mais c'est pas ça. Le temple, c'est vous, c'est moi. Si du moins, l'évangile, la parole de Dieu, demeure en vous. Les évangiles nous révèlent que le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie. Et n'est chrétien que celui qui vit de ces paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu et qui ont été écrites là par ceux qui l'ont connu. Mais dans notre 21e siècle, ce que la majorité connaissent du christianisme, c'est juste quelques paroles de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, des choses comme ça. Mais, et puis les apôtres aussi, et surtout, ils connaissent l'histoire des églises créées par les hommes. Dieu n'a jamais dit de créer ces dénominations, ces églises. Ils connaissent les grandes réalisations de ces églises. Elles connaissent l'histoire de leur guerre, de leur croisade, de leur obscurantisme, de leurs inquisitions. Il faut revenir au simple évangile. Laissez-vous étonner par les paroles et par les actes de Jésus et interprétez ces paroles et ces actes comme des facteurs d'évolution personnelle, comme des facteurs de transformation personnelle, d'éveil personnel. Parce qu'en fait, c'est pour cela que ces quatre évangiles ont été écrits. Que faire de Jésus, de son message, de ses actes? Imaginez ce que vous pouvez en faire. Nous ne sommes pas des animaux. Vous pouvez imaginer ce que vous pouvez en faire. Les animaux, ils pensent, moi je suis sûr, hein, les animaux, ils pensent, ils calculent. Mon chien, il sait très bien, quand je monte l'escalier le soir, voilà, ah, c'est le moment du gâteau. Il va me donner un petit gâteau, c'est comme ça. Et puis, il a de la mémoire, il se souvient que, voilà. Donc, ils pensent, les animaux pensent, calculent, ils ont de la mémoire, mais ils n'ont pas le pouvoir de l'imagination. Qui dit, qu'est-ce que la Bible dit actuellement pour nous? Eh bien, la Bible nous dit que l'imagination se situe à la racine de l'humain. Les sociétés, les institutions, les normes politiques, les normes morales, philosophiques, les œuvres artistiques, tout ça c'est issu de notre pouvoir d'imagination. Alors quand on sait ça, qu'on prend conscience de ça, nous savons donc que les hommes, les sociétés peuvent changer. Alors, avec les quatre évangiles, vous pouvez mettre en question ce que vous percevez dans ce qu'on appelle la réalité. Ce réel que nous ne le percevons que par nos sens et notre raison. Mais est-ce que la vérité ne se trouve que dans ce que nos sens peuvent percevoir ? Grâce à ce que les quatre évangiles révèlent, nous pouvons imaginer ce que pourrait être notre vie si nous acceptons de vivre ce que les quatre évangiles enseignent. Mes frères et sœurs, ça va être gros ce que je vais dire là, mais il n'y a rien, ni dans ce monde, ni dans les bouquins, qui n'a de sens a priori. Même dans la Bible, c'est à vous de donner un sens à votre existence dans ce monde avec ce support extraordinaire que Dieu nous a donné, les quatre évangiles. Ils nous ont été donnés pour nous montrer le sens du chemin, nous montrer la direction. Les quatre évangiles nous donnent l'occasion de réfléchir, d'imaginer et de nous mettre au travail. C'est pourquoi Jésus dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, ne faites pas n'importe quoi. » Il nous donne l'occasion de réfléchir. Les quatre évangiles nous donnent l'occasion de réfléchir sur notre vie, de remettre en question notre vie et de changer ce qui doit être changé pour avoir une bonne vie. C'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse avec cela. Si vous ne connaissez pas encore, si vous ne lisez pas tous les jours un peu de l'évangile, je vous exhorte vivement à le faire. Vous allez voir, ce sont des semences vivantes qui vont entrer en vous et qui produiront toujours leur effet. Père, je te prie de bénir mes frères et sœurs, de les aider à interpréter d'une façon correcte les Écritures, à ne pas tordre le sens de ce que tu as dit avec quelque malhonnêteté religieuse. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Thank you.